Alors, ce mardi débutera la COP15 à Montréal. C'est un événement qui est pressenti comme la plus grosse conférence de l'ONU sur la biodiversité et qui doit rassembler des délégués de 136 pays. Son objectif principal, c'est d'établir une entente entre les pays pour empêcher le déclin de la biodiversité en protégeant 30 % des terres et des océans d'ici 2030. Mais à l'échelle de chez nous, est-ce qu'on est un exemple? On en discute à l'instant avec David Rodrigue, qui est directeur général du Zoo Éco-Muséum. Bonjour, Monsieur Rodrigue.
Bonjour.
Monsieur Rodrigue, d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de la mission du Zoo Éco-Muséum? Je sais que vous n'êtes pas un zoo complètement conventionnel, là.
Non, bien, c'est évidemment, on est une institution zoologique qui est évidemment accessible au public. On a des animaux qui sont sous nos soins, qu'on intègre dans des programmes éducatifs. La mission principale a deux grands volets. Il y en a un qui est sous-jacent à tout ça, qui est le bien-être animal, mais la mission se situe beaucoup au niveau de la conservation de la faune québécoise puis de l'éducation environnementale. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être peu connu, mais le Zoo Éco-Muséum, on a des biologistes à temps plein qui sont actifs, bon an, mal an, toujours dans la conservation de la faune, dans des actions concrètes, scientifiques, sur le terrain, pas au zoo, à l'extérieur, un peu partout dans la province. Puis on a un grand programme éducatif axé vers l'éducation environnementale et on est entièrement et exclusivement dédié à la faune québécoise. C'est là un peu que ça vient nous toucher aussi à plusieurs niveaux l'arrivée de cette COP15-là à Montréal.
C'est ça. Puis, M. Rodrigue, vous savez qu'il y a plusieurs manifestations qui sont prévues pendant tout le déroulement de la COP15. Il y a des gens qui ne voient pas nécessairement ce que ça va changer, qui voient ça un peu comme de la poudre aux yeux, là, finalement, un événement comme celui-là. Est-ce que vous y croyez quand même aux bonnes décisions et aux bienfaits qui pourraient ressortir de cette COP15-là?
Okay, je suis super content que vous me posiez cette question-là. La biodiversité, c'est un sujet... J'entendais Jérémy qui se crisse quand le Canadien perd. Moi, je me crisse quand on parle de biodiversité pour plusieurs raisons. Puis, pour répondre à votre question, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que je crois que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Puis, je pense que ce qu'on peut espérer, tout au moins si je parle personnellement, c'est qu'au niveau de cette COP15-là, ce qui puisse ressortir... C'est une prise de conscience qui est peut-être un petit peu différente par les gens face à la biodiversité. Parce que d'abord et avant tout, biodiversité, c'est là où on entend poudre aux yeux. C'est un terme qui est souvent associé à un bibelot. La biodiversité, les animaux, la faune, c'est des bibelots, c'est beau. C'est important la biodiversité de la préserver parce qu'on veut savoir que ces animaux-là sont là et sont bien. Puis c'est pas ça du tout. Puis en réalité, je pense que ce que les gens soit ne comprennent pas ou ont de la difficulté à accepter, c'est que quand on parle de biodiversité, on parle de l'engrenage d'une énorme machine qui subvient à nos propres besoins à nous, l'espèce humaine. Puis ça, on a tendance à l'oublier. Évidemment, ça demande des changements qui sont très drastiques pour une société. Puis c'est peut-être là où les gens disent que c'est de la poudre aux yeux, parce que je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant que des engagements, ça suffit pas. Ça prend des actions, puis les vraies actions ont des impacts sur nous tous. Puis je dis nous tous parce que c'est vous, c'est moi, puis ça va au-delà de beaucoup de choses qu'on est prêt nous-mêmes aujourd'hui à accepter comme changement. Mais c'est énorme comme changement. Puis si c'est ce qui peut ressortir d'une conférence comme ça, une prise de conscience publique que ça va nous affecter tous, tout le monde a besoin de s'y mettre, à commencer par les gouvernements. Puis je réponds peut-être un petit peu à la question dans votre introduction, mais non, je considère pas qu'on est le meilleur cordonnier au Québec ou le cordonnier le mieux chaussé en matière de protection des espèces.
Ben, parlons-en justement, M. Rodrigue. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de pas correct au Québec par rapport à ça?
Ben, écoutez, il y a une loi au Québec, si on y va au niveau de la biodiversité, il y a une loi de protection pour les espèces susceptibles d'être devenues menacées ou vulnérables ou qui le sont. Quand on regarde les chiffres, sans aller dans les chiffres exacts, il y a environ 250 espèces qui font partie de ce groupe-là. C'est minuscule. Dans les espèces désignées menacées ou vulnérables, au total, il y en a une quarantaine. Puis, il y en a tout le reste qui est en instance de vouloir l'être. La réalité du Québec, c'est que ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de désignation faunique d'espèces. Et ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu aucune considération face à ça. Puis, ça revient un petit peu à ce que je disais. Les engagements sont faciles à prendre. Mais des lois papier, ça ne sert pas à grand-chose. Ça prend de l'application. Puis l'application ici, partout dans le monde, au Québec, ça a des impacts sur notre façon de vivre ou ça aurait des impacts sur notre façon de vivre. Ça aurait des impacts économiques majeurs. Puis ça demande des changements qui sont majeurs. Puis je pense que c'est ça qu'on a tous de la difficulté à accepter. Je pense que tout le monde aime le concept de la protection de l'environnement et de la biodiversité dans la mesure où ça ne nous affecte pas trop. Mais il faut peut-être réaliser que et on s'en sortira pas de cet effet-là. Puis c'est dans ce sens-là, je pense, que c'est critique tant au Québec, l'image qu'on va donner dans cette conférence-là. Moi, mon souhait serait que notre gouvernement ici se déclare pas des engagements, mais déclare des actions concrètes qui vont être prises, puis que peut-être qu'on puisse donner le ton un petit peu à cette conférence-là, en ce sens-là, en tant que hôte.
Monsieur Rodrigue, est-ce que ça s'est vu ailleurs dans le monde, une initiative qui aurait réussi plus que freiner l'espèce d'une espèce qui sera en disparition, puis peut-être même la ramener? Je pose cette question-là. Là.
Il y a eu des cas, puis je choisis mes mots, là. Il y a eu quelques cas, oui. Puis statistiquement, quand on considère le volume d'espèces sur la planète et au Québec, pour parler du Québec, quelques cas, c'est pas suffisant.
Ouais.
Ce qui est bénéfique quand il y a une espèce pour laquelle on intervient concrètement et qu'on protège, par exemple, l'habitat de l'espèce, c'est qu'on va protéger l'habitat pour plusieurs autres espèces, puis on va oublier la biodiversité, on va protéger l'engrenage d'un moteur. Puis ça, c'est vraiment très bien en termes de rendu écologique. Ceci dit, il faut faire attention, puis souvent, on va chercher des cibles numériques. On va parler, dans le cas de la COP15, entre autres, il y a la cible 30% pour 2030 d'espace terrestre et marin protégé. Puis ça, c'est très bien, mais même quand on se ramène chez nous, pour le dire comme c'est, protéger un secteur et en détruire quatre autres,
ouais,
le bilan net est négatif, il n'est pas positif. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Puis c'est là où je veux dire, c'est la réalité, c'est que ça demande vraiment un changement de société. Puis un changement de société, ça prend plus que des engagements, puis ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas avec des belles paroles, ça se fait avec une prise de conscience, puis malheureusement, là, parce que encore une fois, prendre conscience, puis l'appliquer, c'est deux choses, mais des moyens d'application qui vont peut-être être contraignants, mais auxquels on va s'adapter. Puis la réalité, c'est qu'il faut y croire. Un système économique, un système de société, ça se réorganise. Puis s'il y a moyen, si on peut comprendre qu'en bout de ligne, continuer dans la course actuelle, il n'y a pas d'issue. Je pense qu'on est tous capables de se dire peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose.
Mais M. Rodrigue, c'est possible de penser développement économique et en même temps penser à protéger la biodiversité?
C'est possible. Pas dans la façon dont ça se fait actuellement, c'est certain. Puis ça va demander une prise de conscience des enjeux majeurs qu'ils sont. Puis il y en a où, pas juste le Québec, je pense que globalement, on a de la question. Il y a un gros mot dont tout le monde a peur qui s'appelle la surpopulation, qui affecte toutes les espèces animales, incluant l'humain.
Ouais.
Puis on est en proie à ça. Puis ça va demander des interventions directes à ce niveau-là aussi. Parce que, vous savez, on peut bien dire on va protéger l'engrenage, le moteur, puis l'espace qu'il y a besoin pour fonctionner. Mais si on est trop, on est trop.
Mm-hmm.
Donc, il faut y penser.
Mais ça, c'est particulier parce que je vois mal une loi internationale arriver demain et puis dire, là, vous
Absolument.
Avez le droit d'avoir juste un enfant, mettons, là. Ce serait particulier. Mais je comprends que c'est un problème, effectivement, la surpopulation de toutes les espèces, incluant les humains. Mais je vois mal comment ça peut se contrôler sans y aller de manière un peu, comment je dirais ça,
drastique.
Un peu trop. C'est ça, exact, oui, finalement.
Oui, je suis d'accord avec vous. Absolument d'accord avec vous. Je pense que c'est probablement le plus grand défi de l'espèce humaine.
Mm-hmm.
Puis, entre vous et moi, il n'y a personne qui va oser toucher à ça à court terme. Mais ceci dit, la façon dont les ressources sont utilisées, si on reconnaît qu'on a besoin de ces ressources-là, nous, pour espèce, là, en se considérant égoïstement, là, de survivre, on en a besoin, puis qu'on est beaucoup, faut se demander comment les ressources peuvent être utilisées, surtout comment elles ne devraient pas l'être.
Ah, c'est clair. Monsieur Rodrigue, avant de vous quitter, pouvez-vous nous donner un exemple concret, par exemple, d'une espèce animale qui est en voie de disparition présentement au Québec, mais qu'on peut encore sauver, là, en prenant des mesures à partir de maintenant, on aurait encore espoir de pouvoir sauver une espèce comme celle-là. Ça pourrait être quoi comme exemple?
Ben, je pourrais prendre des espèces. Moi, j'ai un penchant vers les espèces petites et méconnues comme les anciens reptiles. Puis on a des espèces à ce niveau-là ici, comme la rainette fourrillon de l'Ouest, qui a fait les manchettes, qui est tout petite et insignifiante pour la majorité des gens. Mais reste que c'est une espèce qui est en milieu urbain, périurbain, sur laquelle on peut encore agir. Dans les espèces phares, on entend tous parler du beluga. Il y en a des moyens. Il y en a des moyens dans l'utilisation de l'habitat, puis dans les impacts qu'on a d'assurer encore aujourd'hui la pérennité de l'espèce, puis c'est possible, mais encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, ça va demander des changements assez drastiques.
On va suivre la COP15, en tout cas, avec attention à Montréal. On va espérer qu'il y ait de réelles solutions concrètes qui sortent de ça. Merci beaucoup, M. Rodrigue, d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci. David Rodrigue, directeur général du Zoo Eco Museum. Ça, la surpopulation sur la planète.
Mais c'est un enjeu, là.
Un enjeu.
C'est un
oui.
enjeu important. Mais tu sais, moi, je pense, avant qu'on contrôle un peu la population que nous sommes, je pense qu'il faudrait peut-être contrôler aussi le développement immobilier.
Aussi.
C'est incroyable. On bâtit par-dessus des maisons, puis on bâtit, puis on bâtit. À un moment donné, tu sais, on peut-tu rester dans les habitations qu'on a? Tu sais, je comprends que tout le monde va avoir son nouveau condo, là, mais à quelque part, je trouve que.
Mais le problème, c'est qu'étant donné que le nombre de personnes augmente, ça va créer une nouvelle demande pour de nouveaux logements quand même.
J'comprends.
Pour pouvoir loger
mais
ces gens-là.
Plein de maisons qu'on trouve juste plus assez chic, plus à notre goût. Fait que donc, on veut aller rester dans le nouveau condo, dans le nouveau développement. On va couper une forêt, on va couper un bois complet pour s'assurer d'avoir un nouveau développement parce que c'est avantageux pour ceux, pour les entrepreneurs. Mais à quelque part, tu sais, est-ce qu'on peut utiliser qu'est-ce qu'on a déjà?
On peut-tu les reniper? On peut-tu
s'arranger pour.
Faudrait qu'il y ait un calcul, en fait, qui soit fait sur le nombre de logements et maisons disponibles présentement par rapport aux projections pour les humains qui s'en
viennent. C'est payant pour les villes avoir du développement immobilier.
C'est sûr, là. C'est
attention comment on le fait, le développement. Exactement.
Oui. Exactement. Mais je pense que ça, c'est le sujet. En fait, l'enjeu qui est hyper important, principal, dont personne ne veut parler, parce que c'est vraiment très délicat, là, on s'entend. Parler de surpopulation, c'est extrêmement délicat. Et on a vu des pays, en passant, qui ont tenté de contrôler les populations et ça s'est pas bien terminé. Puis c'est pas beau, puis c'est pas ça qu'on veut faire ici non plus, là, t'sais. Alors, c'est très délicat. Très, très, très délicat. Comme M. Rodrigue le dit, il y a d'autres choses qu'on peut faire, par contre, en marge de ça, pour essayer de contrôler et de protéger la biodiversité le plus possible. Cette COP15-là, je sais pas pour vous, mais j'ai quand même espoir qu'ils vont peut-être avoir des discussions sérieuses sur certaines choses. Je sais que très peu de gens ont cet espoir-là.
Non, il y a toujours des discussions sérieuses. Après ça, c'est l'engagement qui compte. Après ça, c'est bon. On le fait, là.
C'est
là la différence, oui. Ben oui, toutes les COP, c'est ça. On relève toujours la même chose. C'est du monde qui sont venus en jet privé. Il y a pas d'action de prise. C'est ça qu'on attend à chaque fois.
Écoute, on a un ministre de l'Environnement. De toute façon, on s'attend à ce qu'il fasse des annonces, possiblement, pendant la COP15. Alors, on va suivre ça.
Mais pour la surpopulation, l'humoriste britannique Ricky Gervais avait trouvé une solution. C'était sur les bidons d'eau de Javel, il y a un collant qui est marqué « Ne pas boire l'eau de Javel ». Il dit « Faites juste enlever le collant ».
C'est ça pour vrai, Seigneur? Ricky Gervais, il est capable d'aller bien loin.
Il parlait du Brexit, puis il disait, tu sais, avant d'aller en référendum, il dit « Enlevez le collant », puis il dit « Après, on fera un référendum, genre 2 ans après, tu sais. »
D'après moi, c'est pas tout le monde qui l'a aimé, sa joke.
Ah, ben, c'est une forme de génie. C'est ça, c'est les plus forts qui restent. C'est ce qu'il voulait dire.